Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Ok, the elements, part one fire, take one.
Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance où toute cette semaine nous sommes allés sur les traces de quatre penseurs avant Socrate. Après Parménide lundi, Anaxagore mardi et Héraclite hier, place à notre dernier présocratique, Empédocle. Empédocle, ou le plus excentrique des présocratiques, celui dont Lucrèce évoquait l'esprit tout divin fait d'air, de terre, d'eau et de feu, celui qui a fait du cosmos un drame entre l'amour et la haine, celui dont la mort est devenue une légende. Et pour l'évoquer et nous présenter sa pensée, j'ai le plaisir de recevoir Anne Lorterme, professeure de philosophie à Charleville-Mézières, auteure d'une thèse sur Empédocle et Anaxagore, et auteure, avec Luc Brisson et Arnaud Massé, de lire les présocratiques disponibles au PUF. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
L'imagination ne se contente pas d'un tableau, elle veut une figure de destin. Le feu est une figure de destin. Il naît, il meurt, il est un drame. Et voici que, comme l'eau des profondeurs, le feu appelle un vertige. Le feu est la plus grande image, la plus complète image de l'anéantissement. Et pour ce vertige du feu, pour cet appel du bûcher, on peut en souvenir de la mort d'Empédocle dans le cratère de l'Etna, retenir la désignation d'un complexe d'Empédocle. Ainsi, dans la poésie exaltée, la figure du destin ultime et la mort dans le cosmos, par les forces du cosmos, nous touchons là un trait fondamental de la poésie des éléments.
La mort d'Empédocle n'est pas simplement un fait divers de l'histoire de la philosophie. En effet, qu'est-ce qui maintient l'image d'Empédocle dans la vie spirituelle de tout songeur de la vie et de la mort, de tout rêveur de feu? Ce n'est assurément pas l'histoire des péripéties d'une vie sociale, ce n'est pas non plus la philosophie dispersée dans les fragments d'une pensée philosophique que l'on désigne mal comme une philosophie première, non. Empédocle est une des plus grandes images de la poétique de l'anéantissement. Dans l'acte empédocléen, l'homme est aussi grand que le feu. L'homme est le grand acteur d'un cosmodrame vrai. Le drame d'Empédocle ne se décide pas dans une dialectique du oui ou du non. La négation opère sur des idées, jamais sur des images. Les dialectiques d'interprétation se multiplient. Se vouer au feu, n'est-ce pas devenir feu? Ou bien se vouer au feu, n'est-ce pas réussir à devenir rien? Grand passage de la majesté de la flamme à la majesté du rien? Ou bien encore ce grand feu, ce feu total, n'est-il pas le garant d'une totale purification? Mais être purifié, n'est-ce pas une garantie de renaître? Quelque espoir de phénix n'est-il pas au cœur du philosophe?
Anne Lorterme, on a reconnu la voix de Gaston Bachelard, c'était dans une archive de 1952, puis juste après, encore Gaston Bachelard, mais cette fois-ci interprété par le comédien Vincent Schmitt. C'est un extrait de ses fragments pour une poétique du feu. On entend donc Bachelard raconter la mort d'Empédocle, il en fait un personnage fantasmatique, légendaire. À quoi tient cette légende d'Empédocle, Anne Lorterme? Il est vrai que dès l'Antiquité, cette légende a commencé à circuler, à s'amplifier. Elle a beaucoup marqué l'imaginaire jusqu'à aujourd'hui. Hein. On peut penser à Hölderlin, à Romain Rolland qui ont écrit sur la mort d'Empédocle. Le cinéma s'en est emparé aussi. Mais c'est vrai que bon, il y a une part, dès l'Antiquité, on savait qu'il y avait une part hautement légendaire et fantasmatique dans cette mort. Des auteurs comme Strabon ou Héraclide la réfutent complètement en disant que qu'elle correspond à aucune réalité.
Il faut revenir sur cette mort quand même. L'idée, c'est que, alors, il paraîtrait que Empédocle se serait jeté dans l'Etna et donc brûlé par les flammes et que une sandale aurait été rejetée et on aurait compris effectivement qu'il se serait jeté donc dans l'Etna. Est-ce que c'est ça la légende qu'on retient ?
Oui, parce que Empédocle était censé porter des sandales de bronze. Ce qui est assez rare et original, mais qui peut trouver une explication par rapport à d'autres éléments de son poème. Il y a un rôle particulier du bronze. Mais au-delà du caractère anecdotique, il est vrai que c'est l'idée finalement que on retourne aux éléments originaires tels que le feu. Mais justement, Bachelard insiste beaucoup sur la poétique du feu. Par ailleurs, quand il a écrit sur les rêveries autour de l'eau, peut-être qu'on a davantage ou au moins autant d'Empédocle autour de la figure de l'eau que celle du feu. Donc ça me semble peut-être un petit peu une vision peut-être un petit peu réductrice finalement. Et puis le fait de se cristalliser autour de cette anecdote fait un peu oublier la profondeur de la pensée d'Empédocle qui constitue un véritable système absolument inédit dans l'Antiquité. Et qui n'a pas. On peut trouver des prédécesseurs, on peut trouver des successeurs, mais finalement, il occupe une place complètement à part. Il n'a pas fondé d'école, il n'est pas lui-même issu d'une école, même s'il a des accointances avec les pythagoriciens. Et donc, c'est peut-être sur ce statut à part, à la fois un homme, comme on le verra peut-être dans un autre texte tout à l'heure, censé faire des miracles, arrêter les vents, détourner les maladies, ramener des vivants à la mort.
Arrêter la peste.
Il a joué aussi un rôle politique. Il était, paraît-il, honoré comme un dieu de son vivant, hein, qui cherchait à se substituer peut-être à Apollon et remplacer la parole du poème, qui est une parole véritablement philosophique, la substituer à la parole oraculaire du dieu de Delphes, qui est une parole mensongère, en fait.
Il nous reste d'Empédocle deux textes, deux poèmes, de la nature et les catharmes, ou parfois traduits par purification. Ces textes sont de nature très différente et effectivement sont à l'image de ce que vous décrivez du personnage, c'est-à-dire multiples interhommes politiques, un médecin, magicien. Et on retrouve à la fois dans ces deux textes quelque chose de très physique qui apparaît dans la nature. Et puis aussi quelque chose peut-être de plus noir, de plus sombre dans les catharmes. Est-ce que c'est une bonne manière de résumer aussi peut-être les deux pans de la pensée d'Empédocle ?
Alors, certains interprètes considèrent qu'il n'y a qu'un seul poème, donc la question est très débattue. Certains considèrent que le deuxième poème, celui sur les purifications, qui donne notamment des injonctions sur, comme par exemple l'abstention de viande, des
un
pratiques rituelles,
même.
Voilà, d'une certaine façon, qui semble avoir une connotation plus morale et beaucoup plus tragique également, alors que le premier poème décrit vraiment l'univers physique, ses composants, son devenir, son passé, son futur. Certains considèrent que le deuxième poème, en fait, est une allégorie exotérique, en quelque sorte, donc réservée aux non-initiés, une allégorie du poème physique. Je partage pas ce point de vue, mais c'est vrai que le statut du deuxième poème reste très compliqué puisqu'il est question de démons, des daimones, dont on ne sait pas trop. Alors, il ne s'agit pas d'âme, mais Empédocle croyait à une forme de transmigration, de la conscience en tout cas, on pourrait dire. On peut garder des traces de vie passée. Il dit lui-même qu'il a été poisson, jeune fille,
plante,
et qui manifeste une sorte de parenté de tous les êtres vivants en quelque sorte.
Est-ce que c'est ça d'ailleurs la dimension inédite de la pensée d'Empédocle, à savoir cette espèce de tout est mélange chez lui, c'est-à-dire que il a été jeune fille, plante, oiseau, et rien ne meurt, rien ne naît. C'est la grande phrase quand même d'Empédocle. C'est ça peut-être ce qui est inédit chez lui.
Alors rien ne meurt, rien ne naît, ça concerne en fait les six forces fondamentales, les quatre éléments et les deux forces fondamentales qui régissent l'univers.
Mais sinon, tout le reste, toutes les créatures, les plantes, les animaux, les humains, nous ne sommes que des assemblages transitoires qui sont voués à disparaître et qui ne sont pas éternels du tout. Et c'est pourquoi, quand il était question dans le texte de Bachelard de cette espèce de garantie de renaître, de l'homme aussi grand que le feu, il me semble qu'il y a sinon un contresens, du moins une légère distorsion.
Pourquoi justement ? Parce que ça pourrait paraître plutôt collé à l'idée de l'idée qu'effectivement rien ne naît mais rien ne meurt non plus, et que quand Empédocle se jette dans les flammes, finalement il va renaître mais sous une autre forme.
Oui, mais pas vraiment forcément en tant que qu'Empédocle. Il y a peut-être une persistance de sa mémoire et de sa conscience, mais la matière dont nous sommes tous constitués est éternelle, et c'est ça qui ne naît ni ne meurt en fait. Mais tous les composés sont des agrégats momentanés. Et qui ne sont pas voués à renaître en tant que tels. C'est-à-dire, c'est pas une transmigration non plus à la façon de Platon. Ça reste assez difficile, la compréhension de l'explication du démon pour Empédocle.
En quoi sa pensée est-elle inédite selon vous ?
Alors, il a évidemment des rapports très intimes avec Anaxagore. Sur la question du mélange et de la séparation, tout n'est que mélange et séparation, d'entité on pourrait dire éternelle.
D'entité éternelle. Qu'est-ce que vous voulez dire ? En quoi c'est inédit cette pensée ? C'est-à-dire que la matière se mélange, se sépare, et qu'est-ce qui fait que c'est inédit ?
Alors déjà, sa vision du cycle, pour lui, nous sommes dans un cycle cosmique, c'est-à-dire que nous sommes dans une phase de l'univers, l'univers qui est éternel, qui est fini, dans lequel il n'y a pas de vie. Donc en ça, il suit, on pourrait dire, les injonctions de Parménide, à la même manière qu'Anaxagore. Mais ce qui est inédit, c'est qu'il va expliquer la totalité de l'univers avec un système, on pourrait dire, réductionniste, avec très peu d'éléments fondamentaux, et à partir de quoi il va expliquer l'infini, l'apparente infinie diversité de la réalité, toutes ces métamorphoses, qui ne sont que des métamorphoses apparentes, dans un système qui est absolument cohérent, et qui n'a pas eu finalement d'équivalent.
Personne ne sait quelle fut sa naissance, comment il vint sur terre. Il apparut près des rives dorées du fleuve Acragas, dans la belle cité d'Agrigente, un peu après le temps où Xerxès fit frapper la mer de chêne. La tradition rapporte seulement que son aïeul se nommait Empédocle. Aucun ne le connut. Sans doute, il faut entendre par là qu'il était fils de lui-même, ainsi qu'il convient à un dieu. Mais ses disciples assurent qu'avant de parcourir dans sa gloire les campagnes de Sicile, il avait déjà passé 4 existences dans notre monde, et qu'il avait été plante, poisson, oiseau et jeune fille. Il portait un manteau de pourpre sur lequel retombaient ses longs cheveux. Il avait autour de la tête une bande d'or, aux pieds des sandales d'airain, et il tenait des guirlandes tressées de laine et de laurier. Par l'imposition de ses mains, il guérissait les malades et récitait des vers à la façon homérique, avec des accents pompeux, montés sur un char et la tête levée vers le ciel. Une grande troupe de peuple le suivait et se prosternait devant lui pour écouter ses poèmes. Sous le ciel pur qui éclaire les blés, les hommes venaient de toutes parts vers Empédocle, leurs bras chargés d'offrandes. Il les tenait béants en leur chantant la voûte divine, faite de cristal, la masse de feu que nous nommons soleil, et l'amour qui contient tout, semblable à une vaste sphère. Tous les êtres, disait-il, ne sont que des morceaux disjoints de cette sphère d'amour où s'insinua la haine. Et ce que nous appelons amour, c'est le désir de nous unir et de nous fondre et de nous confondre, ainsi que nous étions jadis, au sein du dieu globulaire que la discorde a rompu.
« Anne-Laure Terme, c'est l'écrivain Marcel Schwab qui écrit dans ses Vies imaginaires, qui datent de 1896 et interprétées ici par Vincent Schmitt, la vie d'Empédocle, mais aussi donne quelques clés de sa doctrine, c'est à la fin du texte. Il dit ceci: tous les êtres ne sont que des morceaux disjoints de cette sphère d'amour où s'insinua la haine. On a déjà deux éléments assez importants et qui font le lien avec ce que vous avez évoqué auparavant, Anne-Laure Terme, de séparation et de fusion que l'on trouve précisément dans l'idée d'amour et de haine. Alors qu'est-ce que c'est que ces deux grands principes pour Empédocle ?
Alors pour Empédocle, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a que six grands principes qui expliquent la totalité de ce qui se passe dans l'univers. On a quatre entités qu'on pourrait dire matérielles, avec des termes un peu anachroniques, qui sont les quatre éléments. Il faut savoir qu'Empédocle est le premier à avoir posé les quatre éléments comme étant primordiaux.
Donc c'est l'air, la terre, l'eau, le feu.
Absolument. Et pour lui, ce sont les vrais dieux. C'est-à-dire que tous les dieux du panthéon grec sont de faux dieux, sont des composés d'éléments. Donc on a ces quatre éléments qui sont matériels, qui ont chacun des propriétés propres. Le feu, évidemment, est chaud et lumineux. Tout ce qui est chaud et lumineux est du feu, c'est-à-dire ça marche dans les deux sens. Ils sont les seuls, chacun a un ensemble de propriétés qui n'appartient qu'à lui. Et l'amour et la haine, ce sont deux forces cosmiques. Donc il faut imaginer comme des forces au sens où on l'entend nous dans la physique actuellement. Des forces étendues dans l'espace et qui agissent sur la matière. Ce sont des forces d'attraction et de répulsion qui fonctionnent de manière différente, puisque le principe de l'amour, c'est qu'elle attire les éléments dissemblables entre eux. Sous l'influence de l'amour, le feu, par exemple, va être attiré par l'eau, par l'air, par la terre. Sous l'influence de la haine, le feu va être attiré par le feu, l'eau par l'eau, l'air par l'air. Donc en fait, chacun est une force d'attraction et une force de répulsion. L'amour attire les éléments dissemblables hétérogènes et les accole ensemble. Elle fonctionne un petit peu comme, je crois, comme une force d'attraction magnétique, comme un aimant extrêmement puissant, qui va les maintenir ensemble et qui va permettre le mélange, qui va permettre que des corps se forment. Et la haine essaie de détruire à rebours ce mouvement-là, en cherchant à faire que les éléments se rejoignent par genre, par race ou par tribu. On trouve aussi chez Empédocle cette expression. Et donc qu'ils forment des masses homogènes. Et donc c'est le combat permanent de la lutte et de l'amour, de la discorde, qu'on peut aussi appeler la haine, neikos en grec, et de l'amour ou amitié, dont le nom est philotès, mais Empédocle lui donne d'autres noms, comme Aphrodite, par exemple, ou Harmonie. Et à certains moments, il y a un cycle absolument nécessaire, contre lequel personne ne peut rien, qui est le cycle cosmique, la nécessité cosmique, qui fait qu'on va avoir une alternance de phases d'amour croissant, jusqu'à la victoire de l'amour. Ensuite, la haine revient, détruit l'œuvre de l'amour et à son tour va créer un monde. Donc en fait, on va avoir quatre phases dans l'univers, si on peut dire. Alors on peut partir arbitrairement de n'importe laquelle, puisque c'est un cycle.
À la fin du texte de Schwab, il dit effectivement, il parle de cette vaste sphère comme une vaste d'amour où s'insinua la haine. Ça veut dire qu'on avait comme peut-être au départ, alors je ne sais pas s'il y a vraiment de départ, justement, c'est une question peut-être à poser Empédocle, mais en tout cas, on peut partir du principe qu'il y a une sphère d'amour unie, une qui va être disjointe par l'action de la haine.
Absolument, c'est ce que décrit le fragment 35, le moment où la haine, à nouveau, va entrer dans la sphère. Alors, Empédocle lui donne un nom inédit, puisqu'il l'appelle le Sphairos, ce qui est un néologisme.
Sphairos, c'est quoi alors? Qu'est-ce que ça
alors,
veut dire?
Alors, Sphairos est un dieu, c'est-à-dire c'est le seul dieu mortel. On a les quatre dieux immortels que sont les éléments, ces deux dieux immortels que sont l'amour et la haine, qui sont en interaction. Et on a un dieu mortel, éphémère, qui est le Sphairos, qui en fait correspond à la victoire de l'amour. Quand l'amour a réussi à mélanger toute la matière, à accoler tous les éléments ensemble, dans une espèce de ce qui pourrait ressembler à une fusion, mais qui en réalité n'en est pas une, puisque les éléments sont éternels, ils sont immortels, on ne peut pas porter atteinte à leur intégrité. En gros, ou bien ils s'accolent entre eux, avec leurs dissemblables, ou bien ils s'accolent uniquement avec leurs semblables. Donc, le Sphairos n'est pas premier, puisqu'on est dans un cycle éternel qui n'a ni commencement ni fin, qui ne s'arrêtera jamais. Par conséquent, on peut commencer à parler du cycle cosmique à partir de n'importe quelle étape. Prenons le Sphairos en premier. C'est ce que fait Aristote d'ailleurs pour le rapprocher d'Anaxagore, qui commence sa cosmogonie avec un état immobile de mélange. Et on pourrait dire que le Sphairos, d'une certaine façon, ressemble un petit peu à ça. Sauf que le mélange d'Anaxagore est infini, et le Sphairos d'Empédocle, comme son nom l'indique, c'est une sphère finie. qui peut d'ailleurs évoquer la sphère de Parménide, hein, qui n'est pas sans la rappeler. Au moment où l'amour a réussi à unifier la totalité de la matière par cette espèce de force magnétique qui donne à la totalité de la matière finie la forme d'une sphère, la haine a été reléguée à l'extérieur des éléments. Donc on peut l'imaginer comme une espèce d'écorce, de couche qui tourne autour éventuellement de la sphère, qui attend son heure. Le mélange de la sphère est parfaitement immobile. Tous les éléments sont absolument collés, presque coagulés, caillés. Ce sont les mots qu'emploie Empédocle par ailleurs pour désigner son mélange. Ils sont imbriqués comme des pièces de puzzle minuscules dans un tout qui a l'apparence d'une homogénéité, mais qui en réalité n'est pas homogène puisqu'il est constitué toujours des quatre éléments.
Qui sont indestructibles et par là même en fait sont conservés tels quels dans cette sorte de mélange, mais restent les mêmes.
Oui, restent les mêmes. Et il faut savoir que les éléments par eux-mêmes pensent. L'amour aussi est cause de pensée, et donc finalement ces éléments qui sont dans le mélange le plus intime possible se connaissent tous les uns les autres, jouissent de leur présence mutuelle, et c'est pourquoi le Sphaïros est dit se réjouir de sa solitude. Solitude pourquoi ? Parce que la haine a été exclue et il n'y a plus rien qui sépare les éléments. On est dans une sorte d'harmonie totale, universelle, sans plus aucune séparation et d'une compréhension mutuelle du tout par lui-même.
Mais alors, il faudrait distinguer plusieurs choses, Anne-Laure Tamser, que déjà le Sphaïros, la manière dont vous le décrivez à partir d'Empédocle, semble être un état plus qu'un élément, un moment du cycle. Et l'idée, en fait, que ce soit un dieu, au même titre que l'amour et la haine et que les quatre racines, les quatre éléments fondamentaux, empêche effectivement de clarifier ce que chacun, les effets que les uns et les autres opèrent sur les autres, justement. Donc, par exemple, les quatre éléments, on va dire, c'est ce qui constitue la matière. Et l'amour et la haine, est-ce qu'on peut dire que c'est les principes de mouvement, d'action sur cette matière même?
Oui, on pourrait en termes aristotéliciens se le représenter de cette façon-là. Les éléments ne sont pas non plus absolument passifs, ce n'est pas une matière inerte ou une matière morte, puisque déjà ils ont des propriétés actives, chacun d'entre eux. Le feu par exemple va avoir le pouvoir de pétrifier, de geler. Alors ça peut nous paraître un peu paradoxal, mais quand il était dit tout à l'heure dans le texte que le ciel était congelé, en fait c'est de l'air qui a été durci par le feu, un petit peu à la manière dont procède un potier qui va mettre de la terre glaise humide à évaporer et qui va la durcir au moyen du feu. C'est d'ailleurs comme ça que l'action de l'amour est décrite par certains fragments. L'eau va avoir des propriétés liantes, agglutinantes, qui en font d'ailleurs un peu l'allié de l'amour, tandis que le feu serait plutôt un peu l'allié de la haine par ses propriétés. Donc les éléments ne sont pas purement passifs, mais on peut dire effectivement que amour et haine sont des causes de mouvement. Un grand commentateur d'Empédocle, Denis O'Brien, avait essayé de montrer que l'amour était cause de repos, mais il me semble que la manière dont je le conçois comme une force d'attraction magnétique, c'est finalement un repos en quelque sorte forcé, un petit peu comme ce que nous on conçoit comme l'énergie potentielle, hein, comme l'immobilité d'un corps retenu par un obstacle qui ne va pas tomber à terre. D'une certaine façon, l'amour est une force de repos, mais active.
Comme dans l'amour, en fait, finalement, comme quand on est amoureux, par exemple.
Oui, parce que évidemment, le terme peut l'évoquer, même si Empédocle, en fait, emploie un mot particulier pour dire l'amour. C'est-à-dire, il n'emploie pas philia ou philié, qui serait le mot auquel on s'attendrait en grec. Il parle de philotès, ce qui est une manière de substantifier encore autrement le terme, d'en faire, de le personnifier. Il appelle aussi Aphrodite harmonie.
Mais harmonie, d'ailleurs, on comprend beaucoup plus l'idée que amour. C'est-à-dire que l'harmonie, on entend bien cette idée de d'action à la fois de cohérence, de mélange et puis aussi d'état apaisé.
Oui, et de conciliation des opposés, ce qui n'est pas sans rappeler d'une certaine façon Héraclite. C'est-à-dire que tout est en lutte dans le monde d'Empédocle, sauf au moment où c'est où c'est la victoire de l'amour, ou au moment où c'est la victoire de la haine. Parce que se passe-t-il à partir du moment où la haine, une fois son temps venu, rentre à nouveau dans la sphère? Elle introduit du désordre, un désordre apparent, elle introduit un mouvement qui est un mouvement tourbillonnaire et qui, comme chez Anaxagore, va projeter les éléments en fonction de leur qualité, soit vers le centre, soit vers la périphérie. Et là, c'est notre monde qui se forme. En fait, nous sommes dans le monde de la haine croissante.
C'est-à-dire nous, là, êtres humains.
Oui. Le monde dans lequel nous vivons et nous parlons actuellement, ce monde-là est voué à se disloquer quand la haine aura fini son travail, c'est-à-dire quand elle aura réussi à former quatre masses pures d'éléments. Il n'y aura plus de monde. Il y aura une, au centre de l'univers, on aura de la terre pure, entourée d'une couche d'eau, entourée d'une couche de feu, entourée d'une couche d'air. Il y aura plus de communication entre les éléments. Il y aura plus de créatures, plus de plantes, plus d'animaux, plus rien du tout. Et tout ça tourbillonnera à une vitesse extrêmement rapide. Le monde se sera déformé sous la forme d'un œuf. Et à ce moment-là, l'amour, qui a été comme désactivé, c'est-à-dire l'amour, il est toujours présent à l'intérieur des éléments. C'est la grosse différence entre l'amour et la haine, c'est à méditer aussi, c'est que l'amour, il est dans la matière, toujours. Il ne peut pas en être expulsé. La haine, on peut l'expulser des corps. Et l'amour va rejaillir d'une certaine façon, la puissance de son pouvoir va irradier à partir du centre, et à nouveau, elle va attirer les éléments divers pour qu'ils s'accolent entre eux, et un nouveau monde va se former, mais à l'inverse du nôtre. Un monde qui n'ira pas vers la séparation en éléments purs, mais qui ira vers la sphère et donc vers le mélange total. Donc on peut imaginer des créatures, Empédocle parle de membres isolés, par exemple des images très frappantes, des yeux qui sortent de terre, des bras
isolés.
Parle de
monstres.
Voilà, et tout ça, ça semble au hasard. Il y a des combinaisons non viables, hein, si effectivement on se retrouve avec une tête d'homme sur un corps de bœuf, ça va pas fonctionner, ou un œil accroché à un bras, et donc les membres peuvent pas se rendre mutuellement service, et donc ça va se détruire, mais petit à petit, les mélanges vont se former, donc on aura un monde un peu monstrueux, on pourrait dire, par certains aspects.
Mais si je vous suis bien, Anne-Lortem, ça veut dire que là, nous en sommes à un moment du cycle cosmique décrit par Empédocle, qui est le moment où nous ne sommes plus tous unis, tous mélangés, puisqu'il y a des êtres humains, on va dire, distincts. Mais effectivement, nous sommes quand même sur la voie de la discorde. Nous allons être complètement séparés, nous allons mourir. Finalement, est-ce que Empédocle décrit ce qu'on pourrait appeler une forme d'évolution, en fait ? C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir affaire à une sorte d'histoire naturelle.
Tout à fait. Et il se revendique d'ailleurs d'une certaine façon comme faisant une histoire naturelle au sens du devenir des êtres naturels. Il y a quelque chose de très moderne pour son époque, de dire que les espèces n'ont pas été créées telles quelles. Alors il n'est pas le premier à dire ça. On trouve ça un petit peu déjà chez Anaximène, par exemple. On le retrouvera chez Démocrite. Mais il y a une véritable zoogonie. Il y en a même plusieurs d'ailleurs, selon qu'on est dans le monde de la haine croissante ou de l'amour croissant. Les créatures se forment toujours selon les mêmes lois du devenir, mais on n'est pas obligé d'avoir exactement les mêmes créatures d'un monde à l'autre d'une certaine façon.
C'est-à-dire que là, nous, on est dans un certain monde, mais il y a une multiplicité de mondes possibles, on pourrait dire, et de créatures possibles. Nous n'avons accès qu'à ce monde-là, mais Empédocle, du fait qu'il se souviendrait de ses anciennes vies, de ses vies antérieures, pourrait nous dire que le monde a été autrement.
Il n'est pas dit qu'il y ait des hommes dans le prochain monde.
Yeah.
Vous écoutez France Culture, il est 10h29, bienvenue sur les nouveaux chemins où aujourd'hui, après Parménide, Anaxagore et Héraclite cette semaine, nous évoquons le présocratique Empédocle en compagnie d'Anne Lortherme, professeur de philosophie et qui a dirigé avec Luc Brisson et Arnaud Massé l'ouvrage « Lire les présocratiques » que vous trouverez aux éditions PUF.
L'amour et la haine, de même qu'ils étaient auparavant, de même ils seront. Et jamais, je pense, le temps infini ne sera vide de ce couple. Je parlerai du double processus des choses, car tantôt l'un grandit, demeurant seul, à partir du multiple, tantôt au contraire il se divise et de l'un naît le multiple. De ce qui est mortel, il y a donc double naissance et double destruction. L'union de toutes choses provoque la naissance et la destruction, et d'autre part, ce qui est formé s'envole en tous sens lorsque les éléments se séparent. Et ces éléments ne cessent jamais leur continuel échange. Tantôt tout s'unifie grâce à l'amour, tantôt à nouveau chaque élément se sépare, emporté par la force hostile de la haine. Ainsi, dans la mesure où ils ont le pouvoir de venir à l'un à partir du multiple, et à nouveau, quand l'un se dissout et que le multiple en est, dans cette mesure, ils viennent à l'être et n'ont pas de vie immuable. Mais dans la mesure où ils ne cessent jamais leur perpétuel échange, dans cette mesure, ils demeurent toujours immuables selon le cycle.
L'amour et la haine, ce couple éternel, Anne Lortherme, c'est ce que dit en tout cas Empédocle dans les fragments 16 et 17 des Purifications, interprétés encore par le comédien Vincent Schmitt. Alors, il faut quand même s'arrêter sur l'idée d'amour et haine. Alors, effectivement, les termes grecs ne disent pas, sont plus peut-être plus ambigus ou peut-être plus pleins, moins connotés en tout cas que l'amour et la haine pour nous, en fait, qui évoquent les passions, en fait, amoureuses, tout simplement, à savoir ce qui d'un côté attire les êtres humains et d'un autre côté ce qui effectivement les sépare. Mais peut-être que c'est la meilleure manière de comprendre comment le monde se forme.
Empédocle aussi met les mêmes connotations que nous y mettons spontanément. Un grec, en entendant les mots philotes naikos, y mettait les mêmes connotations qu'on pourrait dire psychologiques. Dans la suite du fragment 17 qui a été lu, Empédocle dit d'ailleurs les hommes ne voient pas l'amour en tant que tel, ils peuvent le concevoir par la pensée, le méditer par la pensée, mais ils le sentent dans leur jointure et nous sommes poussés par l'amour à accomplir les œuvres qui joignent, etc. Mais sachant que la reproduction sexuée pour Empédocle c'est une sorte de pis-aller, c'est-à-dire ça manifeste justement qu'on est dans le monde de la haine croissante, puisque l'amour qui pourrait agir directement, il accole directement les éléments dans un corps. Il les mélange comme par exemple l'eau et le vin. Alors que nous restons finalement des individus avec notre intégrité, c'est l'amour qui fait que nous avons chacun un organisme qui se maintient et que notre corps ne se disloque pas en petits morceaux au fil de la journée. Donc nous restons finalement coagulés pendant un certain temps, puisqu'au final c'est la haine qui gagne, hein, notre corps va se décomposer en petits morceaux. Mais finalement la force d'amour, elle se manifeste par une attraction à distance. Elle essaie autant que faire se peut de rapprocher les corps, même les corps... les corps humains, les corps animaux, mais ça manifeste plus une faiblesse de l'amour que sa toute puissance, d'une certaine façon.
En fait, la faiblesse de l'amour, elle apparaît quand on est conscient d'aimer ou d'aller vers l'autre, un autre élément, par exemple. C'est-à-dire que, en fait, l'amour tel qu'il est entendu chez Empédocle exclut toute forme de volonté ou toute forme même d'âme, en fait, de l'homme. C'est-à-dire que l'amour, ça agit malgré lui.
Ah oui, il n'y a pas d'âme pour Empédocle. Clairement, et on ne peut rien faire pour contrer la puissance de l'amour ou de la haine, puisque c'est un cycle de enfin, tout ça c'est dû à la nécessité cosmique. C'est une nécessité absolument infrangible, on pourrait dire.
C'est là où l'amour et l'amour et la haine n'ont plus, par contre, cette connotation humaine et passionnelle. C'est-à-dire que même si on empathie, il y a une manière d'agir sur ces passions.
Alors on a quand même un libre arbitre limité, mais on peut faire le choix de résister à la haine. Où on peut faire le choix de l'amour. Alors évidemment, ça changera pas au final la destruction de notre univers, voilà. Mais ça pourra changer notre existence. Par exemple, la condamnation par Empédocle de la consommation de viande
qu'on trouve dans les purifications.
Qu'on trouve dans les purifications. Elle est liée à plusieurs choses. Déjà, au fait que pour Empédocle, la pensée chez l'être humain se trouve dans le sang. Ça, c'est quelque chose de très original qu'on ne trouve chez aucun autre penseur. C'est une sorte d'harmonie du sang parce que notre sang est un mélange des quatre éléments en proportions presque identiques. Et ce qui fait qu'on retrouve dans notre sang, alors à quelques pourcentages près, pourrait-on dire, la même proportion élémentaire que dans le Sphairos. On a cette espèce de mélange presque homogène. Et si je dévore de la viande, je vais manger du sang et en quelque sorte je vais manger une pensée qui est l'œuvre presque la plus achevée possible de l'amour dans un monde tel que le nôtre.
Oui, mais si la pensée est la forme la plus achevée et que finalement en mangeant du sang je me mange moi-même et tout et qu'il n'y a pas de distinction entre de la matière et de la pensée, finalement tous les êtres sont à égalité chez Empédocle. Donc comment il arrive à établir cette distinction? Finalement on ne peut plus rien manger. On pourrait ne plus rien manger.
Alors, il y a plusieurs choses. La première chose déjà, c'est que par rapport justement à l'amour et à la haine, il décrit un temps dans un fragment, l'âge de l'amour roi, où autrefois les hommes ne faisaient pas des sacrifices sanglants, c'est-à-dire que c'est aussi contre la religion de son temps qui s'élève. On peut penser à Lucrèce quand il décrira de manière très très tragique et abominable le sacrifice d'Iphigénie. Il y a quelque chose d'Empédocle là-dedans, sur cette idée que les hommes se massacrent mutuellement, se dévorent mutuellement, dévorent les plus belles créations finalement qui sont celles de l'amour, et ce faisant accélère la venue de l'âge de la haine peut-être. Et il y a quelque chose qu'on peut conserver aussi à méditer dans notre monde actuel, l'idée que finalement la haine, c'est ce qui rassemble les semblables. Et quand on s'isole alors on pourrait dire pas seulement entre éléments, mais entre personnes identiques, quand on a une sorte de ségrégation, de discrimination, on est en train de faire le travail de la haine. L'amour, c'est justement d'aller vers ce qui ne nous ressemble pas.
C'est l'attraction des contraires.
C'est ça, c'est l'attraction des contraires.
Et à partir de là, comment agir justement sur cette haine? C'est-à-dire qu'à défaut de jouer son jeu en allant vers ce qui nous est semblable, on ne peut pas travailler contre ça. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, il y a un cours des choses, on ne peut pas vraiment lutter dessus. Néanmoins, vous avez dit qu'il reste toujours un peu en nous de l'amour. Et par contre, la haine, on peut travailler dessus. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, est-ce qu'on est voué à travailler dessus, mais en vain? Ou est-ce qu'effectivement, on ne fait rien en se disant que de toute façon, les choses se passeront ainsi?
Alors, c'est pas complètement vain, et c'est justement ce que traite le deuxième poème d'Empédocle, celui des purifications, qui nous explique comment faire d'une certaine façon pour devenir des dieux bienheureux. Alors, le statut de ces dieux bienheureux est un petit peu difficile, mais disons qu'il est question, dans le fragment 115, d'un décret de nécessité, d'une espèce de faute qui aurait été commise par certains démons, par nous, d'une certaine façon, et qui fait que nous serions condamnés à errer sur terre.
Empédocle, tu te souviens des paroles inconsidérées que tu as prononcées hier en plein marché?
Comment? Et c'est pour ça que vous venez me relancer jusqu'ici?
Nous n'oublions pas les injures qu'on ose faire à nos dieux.
En fait d'injures, j'ai principalement retenu les tiennes à mon égard.
À toutes tes ruses, j'opposerai ma conscience.
Comment? Si j'énonce des évidences, ce sont des ruses. Et toi, quand tu mens, c'est ta conscience qui parle. Celui qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Allez vite, ton sac sorcier.
Certes, Empédocle, ton verbe est souverain, personne ne le conteste. Ton génie et ton savoir aussi sont grands. J'ajoute à ces dons celui que tu as de subjuguer les foules.
Vraiment.
Ainsi, poussé par l'orgueil, tu as fini par te prendre pour un oracle. Tu te figures que les malheureux que tu endors si bien par des paroles vont te suivre jusqu'au bout de tes extravagances. Mais, vois-tu, moi, tu ne m'impressionnes pas.
Ah non?
Reconnais-le, Empédocle. Cette fois, tu as dépassé les bornes. Tu as insulté nos dieux. Tu as insinué que l'homme pouvait être son propre dieu. N'étais-ce pas insinué en même temps que toi-même, tu étais l'égal des dieux? Te sens-tu coupable, au moins? Comprends-tu à quel point tu t'es égaré?
En somme, tu me reproches d'avoir choisi entre Dieu et l'homme. Longtemps, en effet, j'ai été préoccupé par le problème de Dieu. Maintenant, c'est le problème de l'homme qui m'intéresse d'abord.
Empédocle, un conseil. Va-t'en loin d'Agrigente. Il en est temps encore. Il n'y a pas pour toi d'autre issue.
C'est un fait de nécessité, un décret antique des dieux. éternel, scellé par de larges serments, quand l'un des mortels, par ses erreurs, dans sa fuite souille ses propres membres. Quiconque, après avoir fauté, prononce un parjure. Ô démon qui avait obtenu une longue vie en partage, qu'il erre 30 000 saisons loin des bienheureux, naissant à travers le temps sous toutes les formes des mortels, empruntant successivement les chemins pénibles de la vie. La force de l'éther le poursuit en effet vers la mer le recrache vers les seuils de la terre vers les flammes du soleil resplendissant, et celui-ci le projette dans les tourbillons de l'éther. Chacun le reçoit de chacun et tous les haïssent. Mais pourquoi m'appesantir là-dessus comme si je faisais quelque chose de grand, en surpassant des hommes mortels, sujets à tant de destruction? Moi aussi, je suis pour le moment l'un des leurs, exilé des dieux et errant, en m'adonnant à la haine furieuse dans un pays sans joie, après quelle prérogative et quelle étendue de bonheur. Ici, le meurtre, le ressentiment et les tribus des autres fléaux arpentent, dans l'obscurité, la prairie de l'égarement. Anne Lanterme, je viens de lire justement le fragment que vous évoquiez à l'instant, à savoir le fragment 115 des purifications, dans lequel il est question effectivement de ces âmes errantes, que sont les hommes, et effectivement comment agir à partir de là, comment atteindre le statut des bienheureux qu'Empédocle évoque dans ce texte.
Alors déjà, comme vous venez de le souligner, c'est une sorte de punition de vivre. Notre monde est décrit comme une sorte de caverne, comme un souterrain, et il y aurait peut-être un endroit où des dieux bienheureux, eux, peuvent jouir d'autres prérogatives, c'est-à-dire vivre sans meurtre, sans fléau, sans maladie. Il y a un moyen, déjà, alors ça ne nous permettra pas de changer l'ordre du monde ou de changer la fin du monde et le devenir de l'univers, mais nous avons un moyen d'agir un petit peu sur lui, c'est d'accroître notre connaissance. Et c'est justement pour ça qu'Empédocle écrit un poème dans lequel il ne nous donne pas il nous donne des clés, les clés de ses propres énigmes. C'est-à-dire que quand on lit ce texte d'Empédocle, quand on lit ses fragments, à première vue, c'est quelque chose de très poétique, comme l'avait souligné Bachelard, mais foisonnant, touffu, complexe. On a du mal à comprendre de quoi il parle. Il y a beaucoup d'analogies, de métaphores, de noms cachés. Et en fait, finalement, le disciple, guidé par Empédocle, à travers des chemins sinueux, comme s'il passait à travers des paysages qui lui sont montrés par l'auteur, va devoir accroître sa propre pensée. Et par ce moyen-là, il va pouvoir avoir un pouvoir pratique sur les choses. Comme Empédocle lui-même, qui arrive à guérir, à soigner, à faire ce qui apparaît aux autres comme des miracles, mais qui en réalité ne sont pas pour lui des miracles, sont simplement une connaissance des forces qui régissent l'univers et une manière d'arriver à les apprivoiser et à les détourner.
Est-ce qu'on peut imaginer une dimension politique aux écrits d'Empédocle? Il avait une grande influence dans sa cité, mais est-ce qu'on peut, à partir de ces deux poèmes ou de ce texte en fait qui n'en est peut-être qu'un, imaginer une sorte de traité de morale politique qu'aurait proposé Empédocle?
Alors un traité de morale, c'est certain. En tant que tel, ça a évidemment des implications politiques, mais elles sont pas, dans les fragments qui nous restent, en tout cas, elles sont pas explicites. Mais on sait par certains témoignages qu'Empédocle aurait été... Alors, le terme de démocratie est sans aucun doute très anachronique, mais il était pour l'égalité des citoyens, toujours sur la base de ses propres principes. Dans la mesure où finalement les éléments sont égaux, nous sommes tous composés des mêmes éléments et finalement nous avons tous les mêmes prérogatives.
D'ailleurs, c'est quelque chose de frappant. Dans l'extrait qu'on a entendu en fait juste avant que je lise le fragment 115, c'est un extrait diffusé sur la RTF en 1960 et issu d'une pièce de Raymond Guérin. Empédocle en fait est accusé et exilé par la suite. Il est accusé de s'être pris pour un dieu. Et c'est peut-être là l'enjeu aussi de l'égalité et ce qu'on reproche en fait, le risque de l'égalité, c'est effectivement de se prendre pour un dieu et de niveler tous les êtres. C'est ce qu'on lui reproche.
Alors on lui reproche ceci, puis on lui reproche également dans cet extrait d'avoir mis en péril la religion la religion officielle, on va dire. Puisque dans un fragment où il décrit les quatre éléments, il les nomme, c'est le fragment 6, il les nomme avec des noms de dieux traditionnels. Alors d'ailleurs, c'est une énigme aussi pour les commentateurs de l'Antiquité, qui se cache derrière quel nom. On a ainsi Zeus pour désigner le feu, c'est-à-dire que le vrai Zeus, le Zeus dont parlent les Grecs, n'est pas le vrai Zeus, c'est pas un vrai dieu, c'est simplement un assemblage d'éléments. C'est un dieu à la longue vie, éventuellement, mais c'est pas un dieu véritable. Et quand il reprend ces noms de dieux, c'est pour les détourner, pour dire, regardez, vous honorez de faux dieux, les véritables dieux, ce sont les éléments, c'est-à-dire c'est la matière. Et c'est quelque chose de très subversif.
Et d'ailleurs, qu'on peut retrouver maintenant, effectivement, dans une forme de pensée naturaliste qui soutiendrait une continuité de l'être humain avec les éléments naturels, avec la matière. Est-ce que c'est ça aussi la leçon d'Empédocle ?
Alors, on le voit justement, par exemple, d'une certaine façon, dans sa postérité médicale, dans le corpus hippocratique. Hippocrate, alors même s'il y a... Il y a plusieurs types de traités hippocratiques, mais il y en a un certain nombre qui sont très inspirés d'Empédocle, et notamment sur les équilibres entre éléments. Alors c'est quelque chose d'ailleurs qui remonte à Alcméon, mais on peut réussir justement à agir de cette manière-là sur nos propres éléments, sur les éléments du monde, et accroître ainsi notre pouvoir finalement.
Mais qu'est-ce qui agit sur les éléments ? Si la pensée c'est le sang et si le sang c'est la pensée, qu'est-ce qui agit en l'homme sur ces éléments en fait ? On voit sûrement les implications pratiques, politiques, morales de la pensée d'Empédocle, mais on peut se demander quel est le sujet dont il est question avec Empédocle si tout est à égalité.
Le sujet au sens de
agissant, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait alors peut-être que sujet ou conscience seraient des termes anachroniques, mais néanmoins on peut se demander quel est le principe agissant en l'homme s'il n'a pas d'âme, si finalement il est en train d'être détruit par le cycle de la discorde, qu'est-ce qui fait qu'il peut agir?
Alors en fait, nous sommes agis d'une certaine façon par nos éléments, par l'amour et la haine qui sont en nous et qui sont et la haine qui est en dehors de nous également. Il y a un passage amusant, de Théophraste qui dit que pour Empédocle, ce qui va faire par exemple qu'on va avoir une habileté, que l'orateur a une habileté à bien parler, c'est parce qu'il a un mélange extrêmement bien proportionné des éléments dans la langue. Dans la langue comme organe physique. De la même manière, quelqu'un qui va avoir une grande habileté à ciseler un orfèvre, par exemple, c'est parce que il a une bonne proportion élémentaire dans sa main. Donc tout est, on est vraiment dans un système matérialiste. C'est-à-dire, ça pose le problème justement du statut du daimon qui nous emmène à cette idée de conscience et de subjectivité, parce que le daimon ou le démon, c'est celui qui dit je dans le poème. Qui dit « j'ai erré, je suis un exilé ». Et c'est ça qui est difficile d'arriver à savoir quel statut accorder à un éventuel libre arbitre, à une subjectivité personnelle. Alors on sait déjà qu'il y a la mémoire, qu'il y a une forme de persistance de la mémoire, peut-être des agrégats dans lesquels nos propres éléments ont été pris. Peut-être que les éléments qui composent actuellement mon corps, ces parcelles-là, puisqu'il y a un nombre fini d'éléments dans l'univers, ces parcelles-là, c'était elles qui étaient déjà accolées entre elles quand j'étais poisson. C'est ça qui fait que je peux dire « je ». C'est finalement, c'est ma matière qui persiste. On a quelque chose qui fait penser un petit peu à ce que Schopenhauer dira bien plus tard dans Métaphysique de la mort, que ce qui fait que nous sommes indestructibles, c'est pas notre conscience individuelle, c'est pas notre subjectivité égocentrée, on pourrait dire. C'est la persistance de notre matière.
La persistance de la matière faite de ces quatre éléments, comme on l'a dit, mais est-ce que, par exemple, chaque être a une manière, un assemblage, un mélange de matière qui est singulier ?
Oui, le temps de sa vie, oui, d'une certaine façon, qui est singulier. Comme on disait tout à l'heure, l'orateur va avoir un mélange différemment proportionné. On va, en fait, à travers ces quatre éléments, Empédocle essaie de déployer l'infinité des possibles et toutes les créatures qui peuplent la Terre, il nous les présente toutes comme aussi merveilleuses les unes que les autres. Il répète plusieurs fois de façon complètement ébahie que toutes ces créatures sont des merveilles à voir, la moindre plante, le moindre coquillage. Et finalement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'égalité, il n'y a pas une dignité plus grande de l'homme. Il y a un refus justement de l'anthropomorphisation du vivant, et au contraire, même tout est pensé sur le modèle du végétal. Et si on dans le fragment qui a été lu tout à l'heure, le fragment 17, les choses croissent et poussent. Et on a vraiment une terminologie dans les fragments, le mot germer par exemple, le verbe blastanein, les choses germent et poussent, et c'est comme ça qu'elles croissent. Et nous aussi, on peut faire germer et croître notre propre sagesse, notre propre pensée, ce que Empédocle appelle faire croître son diaphragme, ce qui passe par des exercices rituels, par aussi une maîtrise, par exemple, de sa respiration, de son propre corps. Et c'est comme ça qu'on va réussir petit à petit à augmenter notre compréhension du monde et donc notre pouvoir sur lui.
Et c'est le fragment 100, c'est un des derniers fragments de la nature qui traite justement de la respiration comme une manière de... Alors on n'est même pas dans la métaphore, mais effectivement, la respiration, c'est la manière dont agit la pensée, dont l'homme pense et perçoit les choses.
Oui, ça a un lien très fort puisque le diaphragme est engagé dans la respiration. Alors le diaphragme, nous, ça ne nous parle plus beaucoup comme contemporain, mais c'est vrai que dès Homère, on parle du diaphragme comme principe de vie, comme principe de pensée, comme on dirait d'une certaine façon nous aussi le cœur ou la poitrine pour désigner le siège des sentiments. Mais le diaphragme, c'est plus que ça, c'est comme d'ailleurs on peut penser chez Platon, ça va être ce qui sépare deux âmes, là encore, hein, c'est une membrane essentielle qui coupe le corps. Avec le terme de diaphragme, comme ça, Empédocle nous montre que c'est par un contrôle physiologique qu'on va aussi avoir un contrôle de notre propre pensée.
Merci beaucoup Anne Lorterne d'être venue nous présenter la pensée d'Empédocle. Alors je rappelle que vous avez co-dirigé avec Luc Brisson et Arnaud Massé Lire les présocratiques disponibles au PUF. Et puis chers auditeurs, lisez aussi De la nature et les catharmes ou les purifications d'Empédocle que vous trouverez aux éditions Gallimard. Et puis un grand merci à l'équipe des Nouveaux Chemins, Ariane Mintz, Antoine Ravon, Marianne Chassor, Pierre Brossard, Adèle Vendrette évidemment, Vincent Schmitt à la lecture des textes, Nicolas Berger à la réalisation cette semaine et à la prise de son aujourd'hui, Élise Leu. Les Nouveaux Chemins, c'est donc fini pour aujourd'hui, mais dès demain, vous retrouverez Adèle Vendrette pour les chemins du vendredi. Et demain, c'est une philosophie de l'effort au programme en compagnie d'Isabelle Queval. Et si d'ici demain, vous voulez encore vous aventurer sur les nouveaux chemins, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page L'émission pour écouter l'émission où vous voulez et quand vous voulez. Et puis rendez-vous également sur les réseaux sociaux pour suivre nos programmes.